France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Qu'est-ce qu'il vous faudra aujourd'hui?
Eh bien, je voudrais un petit peu de galantine et puis deux pieds de porc.
À la commande de Madame Marie, vous ajouterez un petit poivrier.
Bien, madame.
Et des meilleurs.
Et donc, ce qui nous intéresse, nous, dans les rillettes, c'est ce morceau de filet et le morceau de jambon qui sont caractéristiques des rillettes de Tours. Donc, des morceaux maigres, des bons morceaux du cochon.
Alors, on commence par les sardines ou par les rillettes?
Les sardines!
Dans les rillettes, on a le droit, dans le cahier des charges, de hacher le gras. La viande, bien sûr, interdiction, parce qu'il faut des bons morceaux de viande. Par contre, le gras, on va le hacher pour qu'il puisse fondre convenablement.
Marie-France, vous emmenez des rillettes sur un plateau?
Nous n'avons pas les mêmes valeurs.
C'est compliqué. Hein.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Aujourd'hui, on fait la fête aux rillettes, qu'elles soient de porc ou d'oie, et même de volaille ou de poisson, du Mans ou de Tours. On vous raconte et on cuisine aujourd'hui cet emblème charcutier bien français. Alors pour nous raconter l'histoire de cette grande spécialité, il y a Loïc Bienassi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'historien de la bande, spécialisé dans la gastronomie et les cultures de l'alimentation. Vous avez spécialement enquêté pour nous sur les rillettes, d'autant que vous habitez l'un des fiefs français des rillettes.
Oui, mais je serais au-dessus de la mêlée, une sorte de général de Gaulle de la rillette. Je ne prendrai pas parti ni pour la Sarthe, ni pour la Touraine.
Parce que vous nous venez de Tours, hein, faut-il le préciser?
Absolument.
Vous enseignez?
Oui, tout à fait. Et donc, oui, la rillette nous emmène dans le Grand Ouest.
Oui.
Et donc, il y a beaucoup de choses à dire sur cette histoire d'un... Une histoire un peu inconnue d'ailleurs, l'émergence de la rillette, c'est un sujet sur lequel planent beaucoup de zones d'ombre.
Le résultat de vos recherches dans le courant de cette émission, évidemment. Nous irons d'ailleurs en Touraine, à Besse-le-Château, avec notre reporter Stéphane Combe, pour pousser les portes de la maison Galland, qui façonne en famille de superbes rillettes de Tours, fermières et cuites au feu de bois, s'il vous plaît. Et puis pour nous apprendre à cuisiner les rillettes, Marie Caffarel, bonjour.
Bonjour François-Régis.
On est vraiment très heureux de vous accueillir sur le plateau dont on va déguster. C'est la première fois. Vous nous venez de Marseille. Vous êtes artisane charcutière. Vous êtes à la tête de la maison Payani, rue Breteuil, à côté du Vieux-Port, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Et les rillettes, ben c'est votre truc. Vous avez d'ailleurs signé une très belle bible sur la charcuterie, le grand manuel du charcutier aux éditions Marabout, qui permet de réaliser à la maison saucisses, terrines, pâtés, caillettes et des rillettes, évidemment. C'est vraiment un livre de référence pour apprendre et pour maîtriser. Quand même pas loin de 100 recettes charcutières.
100 recettes, donc on explique toutes les bases en fait. C'est, le grand manuel avait été créé à la base pour donner en fait un avant-goût à ceux qui voulaient faire un CAP et se former du coup à l'artisanat.
Donc voilà. Les rillettes à la maison, vous allez nous raconter que c'est possible?
Tout à fait. Les rillettes, c'est vraiment bête. C'est vraiment des... quelque chose qu'on peut faire avec tout type de viande. Du coup, c'est de la viande qui est maigre, qui est cuite dans du gras, qui s'effiloche et qui ensuite est mélangée avec des épices.
Ah là, vous êtes déjà parti sur la recette là.
Il suffit d'une petite cocotte
et on est parti. On va voir une très belle cocotte et on va voir que c'est possible. Vous allez d'ailleurs nous faire goûter le fruit de vos essais culinaires et il y a de très belles recettes. Que verser dans nos verres pour un mariage d'amour avec les rillettes? Ben, celui qui détient la réponse, c'est évidemment Jérôme Gagnès. Bonjour.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire grimper au rideau.
Petite énigme bachique, moi j'ai la solution. Pour réagir en direct dans cette émission, un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou bien le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. L'émission est réalisée par Laurent Thomas avec Mathias Saléon, Fabrice Rivaud pour la préparation et la production de l'émission. Émission dont vous pouvez retrouver tous les contenus et les podcasts sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Mais avant de parler de rillettes, j'ai versé dans vos verres une boisson, chers amis, que je vous invite à goûter. À l'aveugle, évidemment, c'est la tradition dans cette émission. Dites-moi ce que vous en pensez, la couleur, le goût. Est-ce qu'éventuellement vous pourriez déceler une identité? Marie Caffarel?
On est... sur un alcool fort,
oui.
Du coup, type peut-être Armagnac?
Pas tout à fait, mais on est effectivement sur un alcool fort. Loïc Bienassi?
On a l'impression de dire qu'il y a de la pomme.
J'ai senti de la pomme, mais...
Ça fait penser à du calvados, moi.
Alors, c'est intéressant, mais il y a un fruit, ce n'est pas de la pomme. Alors, Jérôme Gagnès.
Alors, la couleur, Elle est très très légèrement ambrée, donc ça veut dire que, et d'ailleurs on l'a bien au nez et en bouche, hein, on a des notes vanillées, donc il y a un élevage bois qui n'est pas très important parce que sinon la couleur sera un petit peu plus soutenue, mais il est probablement d'un an ou deux ans, quelque chose comme ça. Moi ça m'a rappelé un fruit, c'est la prune. Mais je sais pas si c'est de la prune, mais ça m'a rappelé un peu des prunes que j'ai pu goûter à de nombreuses reprises.
Vous avez donc triché ?
Non.
Bien joué.
C'est une prune.
Oui. Alors est-ce que vous pourriez maintenant, attention ça se corse, déceler une ou nous livrer une origine, une provenance ?
Bah je connais pas. Il y a c'est pas très courant en fait d'élever les eaux de vie de fruits. Alors il y a évidemment la Roque à Souillac hein, qui élève, mais avec un boisé beaucoup plus marqué, beaucoup plus intense. Donc je pense pas que ce soit la Roque à Souillac.
Non.
Mais ça me semble être plutôt je sais pas, ça pourrait être une distillerie du centre de la France, dans l'Aveyron, dans le Cantal.
Non, éloignez-vous, éloignez-vous.
C'est pas en Alsace, je ne pense pas.
Éloignez-vous des frontières de la France.
Ah, c'est une prune étrangère.
Eh oui.
Ça peut être le centre de l'Europe ou la Suisse.
Ah, il est quand même pas mal, il est bon notre chroniqueur. Voilà, je vous tends la bouteille, et si vous arrivez à prononcer cette spécialité.
Ah, brandy de fruits, Flores. Zuta Oza.
C'est une eau de vie.
Slivovica.
Voilà, la Slivovica. Slivovica. Ça vous dit quelque chose, Loïc Benassi ?
Oui, c'est serbe, normalement.
Bravo, bravo. Alcool traditionnel de Serbie, qui fut inscrit en décembre 2022 au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette eau de vie de prune obéit à un savoir-faire domestique et à des rituels très particuliers en Serbie. Écoutez bien, Jérôme, les prunes sont généralement cultivées dans des exploitations familiales. Chaque famille en général a sa plantation de prunes. La récolte se passe à l'automne. Les prunes fermentent entre 20 et 30 jours selon un process traditionnel, puis elles sont distillées dans des alambics en cuivre fabriqués à la main. Chaque famille a son alambic pour obtenir une liqueur légère. Il y a une deuxième distillation qui permet d'obtenir une eau de vie plus puissante. Puis cette eau de vie, et c'est là où Jérôme Gagnès avait parfaitement raison, est élevée en fût de chêne pendant au moins un an. Lors des fêtes et des célébrations familiales, la Slivovica est utilisé pour porter des toasts, mais c'est aussi un ingrédient important pour la médecine traditionnelle. On y ajoute des herbes médicinales ou des fruits pour obtenir des remèdes contre le rhume. Et cette boisson se consomme, figurez-vous, chaude en hiver, alors que là, je vous l'ai mise au freezer pour une température de quelques degrés. Voilà, on boit un alcool de prune dans de nombreuses régions des Balkans, mais en Serbie, peut-être plus qu'ailleurs. Ce spiritueux est un véritable symbole culturel national, ce qui explique son classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On se fait un petit chin-chin, même si, chers amis, on y va quand même avec modération. 45.
Ça fait 45 volts, hein. Oui. Il y a du monde dans la bouteille.
Il y a du monde dans la bouteille, on est d'accord. Écoute.
C'est du brutal. J'ai collé une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme.
If I die tomorrow, could you find it in your heart to sing? If my mother cries in sorrow, will you help her with the many things that she needs from time to time and day to day? So if I die tomorrow, you could.
love and they gave for free. And I wish that I could give it back to them. So if I die tomorrow, will you give them all the love they lent to me?
Jack White avec le titre If I Die Tomorrow, choisi par Djoubaka sur la playlist de France Inter. On plonge la tête dans ces riantes, riettes. Mais il est vrai que quand on prononce le mot riette, il y a des sonorités, des syllabes que je trouve gourmandes et aguicheuses. On est d'accord avec ça, riette? Non?
C'est toujours annonciateur d'un très bon moment quand on entend riette.
Surtout quand on voit nos assiettes bien garnies de délicieuses riettes. Loïc Bienassi, quand on startine des riettes sur un bon pain de campagne ou sur une baguette, Jérôme, il est plutôt de l'école baguette de pain. Beaucoup de neutralité hein, pour profiter du tempérament de la riette.
Exactement.
On pressent, on suppose que cette spécialité fait partie de notre patrimoine depuis pas mal de temps. Ne serait-ce que par ce mot qui semble un peu désuet.
C'est le cas, ça c'est le cas. C'est-à-dire que les origines du produit, comme je le disais, sont un peu nimbées de mystère. C'est-à-dire que c'est un produit charcutier domestique, clairement, qui était préparé lors de la tuée du porc, la tue cochon. Sans doute dans différentes régions d'ailleurs, mais globalement, il y a une tradition de la riette qui semble associée au Grand Ouest français. Voilà. Et après, il y a sans doute des variantes de ci, de là, logiquement, parce que l'idée est évidemment de valoriser tout ce qu'il y a à valoriser dans le porc. On utilise tout. Hein. Tout est bon dans le cochon, c'est vraiment ça. Alors, sur le mot lui-même, le mot riette, en fait, ça trouve son origine dans le mot « rille ». Mot dont on trouve la trace dès le XIe siècle, rille, reille, enfin toute une famille de mots qui renvoient, alors justement là on s'éloigne un peu de la rillette telle qu'on l'entend aujourd'hui, à l'idée de planchette, de latte, qui vient du latin regula, règle, hein, donc plutôt une pièce assez longue en fait, de porc, une longue bande de lard, hein, tout simplement. Donc on a ce mot riz qu'on trouve ensuite employé pour qualifier une viande de porc, clairement dès la fin du XVe siècle, on le trouve chez Rabelais aussi, dans le tiers livre 1546. Donc voilà, il y a ce mot de riz. Il y a aussi, et on peut imaginer que le mot rillette en découle, petite rillette, voilà, c'est la même famille. Et on trouve d'ailleurs aussi le mot riblet. Dès le Moyen-Âge, par exemple, dès le XIe siècle, mais en tout cas dans un usage culinaire dans le Ménagier de Paris, là on est dans un manuscrit de la fin du XIVe siècle, où il y a une recette de fèves à la graisse de la riblette.
Riblette.
Oui, riblette, où on comprend qu'en fait c'est l'utilisation de la graisse de lardon. Donc on n'est plus dans cette pièce longue, mais on est toujours dans la viande de porc, la graisse de lardon, la graisse de porc. Et on voit d'ailleurs qu'au XVIIe siècle, le mot riblette sert à désigner, dans certains dictionnaires, l'omelette au lard. Donc voilà, donc c'est toute une famille de mots. Par contre, le mot rillette lui-même, voilà, on y arrive quand même. Le mot rillette lui-même, lui, il apparaît, les premières attestations, c'est XVIIIe siècle.
Avec cette définition d'une viande hachée ou en morceaux ou en filaments et confite dans du gras, dans de la graisse.
Alors, j'ai envie de dire, on peut supposer qu'elle corresponde à peu près à nos rillettes actuelles, mais il n'y a pas de vraie recette, par contre. Là, je parle vraiment de l'émergence du terme. On est au XVIIIe siècle. On a, par exemple, le témoignage d'un curé, François-Yves Bernard, sud de l'Anjou. Donc, quand je vous parle du Grand Ouest, on parlait de la Sarthe, on parlait de la Touraine, la sud de l'Anjou. Et il raconte, il écrit ses souvenirs d'enfance. On est dans les années 1840. Et donc, qui renvoie souvenirs d'enfance. Donc, on est dans les années 1760. Et, justement, il parle de la tue cochon, donc là, vers la Saint-Martin, 11 novembre, et il explique, en dépeçant le porc pour le saloir, on réservait certains morceaux destinés à la fabrication des rillettes, désignées par le nom de rio, qui, avec les boudins, les saucisses, le foie et la rate, devaient former le plat obligé du dîner donné dans cette occasion. Donc, c'est aussi un de ces produits festifs autour de la tuer du cochon, de la toite du cochon, selon les régions. Donc, il y a cette idée, et d'ailleurs, il y a cette idée de cadeau aussi. C'est-à-dire qu'on offre des rillettes à cette occasion. Et chez Rabelais, quand j'en parlais, les rilles, c'est aussi dans un contexte de produits qu'on offre. Donc, voilà, il y a tout ça qui se retrouve.
Rilles, reilles, rillons, rio, rillettes. Rillettes toujours au pluriel dans ces occurrences.
Si, l'usage s'est installé, oui, tout à fait. Oui.
Les rillettes.
Oui, les rillettes.
Ouais. Avec un S à la fin.
Absolument.
Et effectivement, dans cette grande famille des rillettes, on trouve également d'autres recettes qui consistent à valoriser tous les morceaux, notamment les plus gras de la carcasse du cochon. C'est ce que l'on voit dans votre livre, Marie Caffarel, avec évidemment une rillette dont on va parler dans la seconde partie de cette émission, puisque vous allez nous apprendre à faire à la maison, si c'est possible, des rillettes à la façon de la Touraine. Mais il y a également des rillettes de volaille et de canard, et des dérivés qu'on pourrait associer à la grande famille des rillettes, qui sont notamment les rillons.
Les rillons, ouais, c'est du coup la poitrine, en fait, qu'on a désossée, qu'on va venir couper en gros cubes, faire des carrés, et qu'on va venir faire mariner traditionnellement à Tours, donc dans du vouvray avec sel, poivre. Mmh. Et le lendemain, une fois que ça a bien mariné toute la nuit, on vient plonger ça dans du saindoux et ça va cuire très lentement, plusieurs heures. Et à la fin, on va monter le feu pour vraiment faire caraméliser le rillon. Et c'est cette petite couleur-là, cette petite couleur brune qui, comme finalement en cuisine, quand on déglace un plat, vient donner du goût au rillon.
Et ça se voit d'ailleurs dans votre livre.
Et ce rillon, il est fondant à l'intérieur et c'est vraiment un apéritif à Tours qui est très très prisé.
Ça ne vous empêche pas, c'est une spécialité tourangelle, vous l'avez dit, ça ne vous empêche pas d'en faire à la maison Payani à Marseille, avec un certain succès.
Complètement.
La recette figure dans votre livre chez Marabout.
J'ai une petite question, la marinade avec le vouvray, c'est un vouvray sec ou c'est un vouvray demi-sec?
C'est indiqué, il y a une indication. Moi j'utilise du sec, mais après je pense qu'on peut utiliser les deux, il n'y a pas de règles en la matière.
Parfait. Autre dérivé des rillettes qui, dans la recette, figure également dans votre livre, le grand manuel du charcutier, qu'on peut assimiler effectivement à cette grande famille, c'est les gratons.
Oui, les gratons. Alors les gratons.
Et ça parle à votre enfance en plus.
Oui, pour moi, les gratons, c'est toute une histoire parce que moi, j'habitais à la Grande Motte, mais dans le sud-ouest également, de par ma famille. Et donc, on avait les fougasses au graton qu'on achetait le dimanche. Voilà, donc ça s'est intitulé le feuilleté au graton dans le livre.
Et j'avoue et donc, que moi j'ai également mes habitudes dans le Gard, et on trouve également cette fougasse feuilletée.
On trouve dans le Gard, bien sûr, cette fougasse feuilletée au graton.
C'est délicieux.
Et dans le sud-ouest, on utilise du coup des gratons de canard. Donc c'est très goûtu, très long en bouche, et c'est une pure merveille. On fait légèrement réchauffer ça au four avant dégustation.
Alors définition des gratons anatomiquement.
Anatomiquement, moi je le fais avec, quand je fais mon saindoux, je hache ma bardière. Et c'est le gras qui est sur le dos de la bête. Mmh. Ou alors on peut aussi utiliser d'autres parties de gras, mais généralement c'est ça. Mmh. Et ensuite, on vient le faire fondre. Et quand on vient fondre notre saindoux, on va récupérer au fond de la casserole ces petits gratons.
Qu'on peut qualifier de résidus de viande, en fait.
Résidus de viande, résidus de gras. Et qu'on va venir faire légèrement rissoler pour les colorer. Et ensuite, les faire sécher, les saler et les incorporer à notre pâte feuilletée.
Très bien, alors rillon, graton, on nous signale aussi évidemment, là ça va être la bataille dans toute la France, parce que les expressions et les mots n'ont pas toujours la même signification d'une région à l'autre, et c'est vrai que ces morceaux de gras, de porc rissolé, les fameux gratons, sont aussi très présents à Lyon et à Bordeaux.
Tout à fait, oui, non, c'est compliqué de s'y retrouver parce que le mot, la chose, un même mot peut désigner des choses différentes, des produits différents peuvent être désignés là par des mots différents. C'est quand même un maquis assez complexe. Juste un point sur les rillons. Historiquement, il semble que le rillon, en fait, était indissociable des rillettes, c'était un peu un sous-produit. Quand on préparait les rillettes, j'ai envie de dire les morceaux les plus gros, pour le dire simplement, étaient sans doute les rillons, ce qui fait que on peut supposer à partir de quelques occurrences qu'au 18e siècle, début 19e siècle, en fait, ils étaient mêlés, rillons et rillettes. Et que c'est ensuite qu'on a valorisé à part aussi les rillons.
Ah, intéressant. Venons-en à une célébrissime rillette. Alors voilà, ça y est, je l'ai dit au singulier. Deux célébrissimes rillettes de France, les rillettes de Tours, qui bénéficient d'une indication géographique protégée, IGP. Notre reporter Stéphane Combe nous entraîne à Belz-le-Château. Vous savez où c'est? C'est pas très loin de chez vous, Loïc. Belz-le-Château. On est à une soixantaine de kilomètres au sud de Tours, dans le département de l'Indre-et-Loire. Alors Stéphane, pousse la porte de la maison Galant. On peut même raisonnablement dire que c'est Loïc Bienassi qui nous a mis sur la voie de cette très bonne maison qui fabrique d'authentiques rillettes artisanales et fermières avec les cochons de leur propre production. Rencontre avec Éric Cottineau.
Donc ici, on est dans la porcherie sur paille. Donc c'est ici que sont élevés nos animaux pour être transformés en charcuterie et une partie en rillettes. Donc dans cette case, là devant nous, voilà, on a environ 40 cochons. C'est des animaux qui ont trois fois plus de place que des animaux élevés dans un bâtiment standard. On le voit, c'est des cochons qui jouent, ils tournent dans tous les sens, ils aiment bien fouiner dans leur paille. Leur mère est issue de deux races, c'est-à-dire c'est du Landras et du Large White. Cette mère-là, en fait, on la croise avec un Vera, qui lui est plutôt conformé pour faire de la viande, quoi. Avec du muscle, pas trop de gras, un petit peu malgré tout pour avoir ce qu'il faut en charcuterie et pour le goût. Donc ces animaux-là, ils mangent les céréales qu'on a produites sur notre ferme. La particularité, c'est qu'ici, on est un élevage sans OGM. Alors l'essentiel de l'alimentation d'un cochon, c'est du maïs, du blé. Et après, on met un petit peu d'orge, du pois, de la févrole pour amener la protéine, parce que c'est la protéine qui fait le muscle et donc qui fait la viande. On s'y retrouve. Vous voyez, ça cause toujours un petit peu les animaux. On apprivoise nos animaux, on passe du temps avec eux. Donc le fait de faire ça, le cochon a un bon ressenti avec l'homme, le fait de l'apprivoiser. Il est moins stressé déjà. On les a pas poussés intensivement. Donc voilà, c'est la viande qui va bien se tenir. Toutes les semaines, on pèse, donc arrivé à 120 kilos, on les sélectionne et ils partent à l'abattoir le mardi matin.
Les cochons sont bien élevés à la Maison Galland. Et la Maison Galland, ce sont donc trois associés, hein, Eric Cottineau qu'on entendait à l'instant en charge de la partie élevage. Il y a aussi Maxime Galland qui gère la culture des céréales pour nourrir les cochons. Donc ce sont vraiment des rillettes fermières totalement en circuit court. Ils produisent eux-mêmes les céréales et les fourrages pour l'alimentation de leurs porcs. Et ces rillettes sont entièrement réalisées de cette manière avec le cousin Romain Galland qui s'occupe de la partie charcuterie. Et bien notre reporter Stéphane Combe s'est levé très tôt, attention, pour assister à la fabrication des fameuses rillettes au feu de bois. Si, si, elles sont cuites au feu de bois, ce qui est assez rare.
Ça, c'est du chêne et du charme de la forêt de Verneuil. Hein. On cuit toutes les rillettes au feu de bois depuis 35 ans maintenant. Il y a une ouverture dans le mur qui communique de l'autre côté avec notre labo, là où il y a le chaudron, si bien qu'on a accès sous la marmite.
Et Romain, là, il est 5h30 du matin. Oui. Pour faire de bonnes rillettes, il faut se lever très très tôt.
Ouais, il faut allumer le feu, et puis c'est une cuisson qui dure au total presque 8 heures, donc faut se lever tôt le matin.
Ah, le feu, il prend bien, là.
Oui, ça y est, là, c'est parti, on va pouvoir retourner de l'autre côté. Donc là, on a nos morceaux de viande qui ont été découpés hier, donc vous voyez, c'est des gros cubes hein, qui font à peu près 5-6 cm au carré, donc des morceaux de jambon. Donc le jambon et le filet, c'est des morceaux importants, donc dans le cahier des charges, c'est minimum 25% de ces parties-là, parce que c'est des parties maigres, des parties goûteuses, et donc c'est ce qui caractérise les rillettes de Tours. Donc une rillette maigre, eh ben, il faut mettre des morceaux maigres. Puis après, bon, on a quand même un petit peu de poitrine, un petit peu d'échine. La couleur rouge sur le muscle, c'est que le muscle a travaillé. Donc là, on voit qu'on est sur du beau cochon. Donc là, vous voyez, le gras est bien fondu, ça rissole. Donc là, on met les petits morceaux de viande. Hein, hop, et nous, l'importance dans les rillettes de Tours, c'est d'avoir des fibres longues présentes dans le produit fini. Donc pour avoir des fibres longues au départ, il faut mettre des bons morceaux de viande, des gros morceaux de viande. Et la viande, tout au long de la cuisson, va se détacher.
Alors là, vous reprenez la pelle, cette ouais. énorme pelle, voilà. Et vous êtes en train donc de mélanger.
De remuer les morceaux dans le gras pour bien les faire rissoler. Ouais. Et on met nos cubes de viande, vous voyez, ils ont déjà bien changé de couleur, hein. Ils vont brunir un petit peu pour bien les faire rissoler. Et c'est ce qui amène aussi ce petit goût de rissolé aux rillettes. On va avoir mis 20 kg de gras pour 50 kg de viande, à peu près moitié de gras que de viande. Ça va pouvoir confire toute la matinée. Oh là, on va laisser cuire ça au moins 6 heures. Oui, donc là, on en est à 5-6 heures de cuisson. Déjà, on voit que la viande s'est bien détachée. Il n'y a plus beaucoup de gros morceaux de viande. On voit bien les fibres longues caractéristiques des rillettes de Tours. Mais on va déjà pouvoir assaisonner les rillettes. Le fait de ne pas ajouter de nitrite, ça permet d'avoir un produit qui est sans conservateur, donc meilleur pour la santé. On sale uniquement au sel de mer. On peut la conserver 15 jours, 3 semaines sans problème dans son frigo. Là, on vient finir d'écraser les petits morceaux de viande qui restent. Hein. Donc là, on voit bien, hein, c'est en train de bouillonner. Là, ça remonte bien en température. Le contact de la rillette avec la fonte, ça va finir donner cette couleur brune, bien caramélisée. Ça, c'est ce qu'on recherche en faisant le coup de feu final. Et du coup, il faut pas se louper. Il faut pas que la rillette, elle brûle. Elle s'est confite dans le gras du cochon, hein, dans le saindoux.
En fait, c'est un petit peu le même procédé que pour faire des confitures.
Oui, exactement. Le gras dans les rillettes, le gras, c'est l'équivalent du sucre dans les confitures.
Les rillettes fermières de la Maison Galland, qui sont en vente directe à la ferme, hein, pour ceux que ça intéresse et qui habitent dans le coin ou qui passeraient peut-être quelques jours de vacances du côté de Betz-le-Château, au sud de Tours. Et ces rillettes sont également en vente dans quelques commerces, mais seulement de la région. Mais c'est ça qui est bien en même temps. Tant mieux si on n'en trouve pas à Lyon, à Paris ou à Marseille. De toute façon, à Marseille, il y a les très très belles rillettes de Marie Caffarel à la Maison Payani. Mais en tout cas, on peut aller les acheter là-bas. On a entendu dans le son, hein, que elles étaient non nitritées. Et ça, c'est une des conditions du cahier des charges de l'indication géographique protégée des rillettes de Tours. Comme par miracle, elles ont atterri sur notre plateau. Qu'est-ce que vous en pensez de ces rillettes Galland, Marie Caffarel?
Alors, c'est une rillette, du coup, et voilà, qui a été cuite longuement et surtout qui a été caramélisée enfin. Donc,
voilà,
c'est vraiment
ça, c'est
cette expression du caramel qu'on ressent et qui enfin,
réaction,
ça remplit la bouche.
Réaction de maillard, pourrait-on dire.
Voilà, c'est ça, tout
et
à fait.
Et ça apporte effectivement du goût et ça apporte également une couleur que vous trouvez particulièrement marquée, Loïc.
Oui, c'est une des grandes caractéristiques des rillettes de Tours. Et là, en effet, elle est particulièrement nette, cette couleur voilà, brune. Justement, voilà, c'est et alors sinon, au-delà de ça, le côté, évidemment, la fibre qu'on sent très bien et qui est un des grands plaisirs, je trouve, aussi des rillettes, c'est vraiment cette texture à part. Quoi.
Qu'est-ce qu'il en pense de notre gagnéuse nationale? Je fais exprès de le prendre la
bouche pleine. Ça s'appelle une torture, ça, monsieur Gaudry, vous serez condamné pour ça. Donc, elles sont très très bonnes. Il y a beaucoup de mâches. D'abord, elles sont parfaitement assaisonnées.
Vous ferez passer le pot, quand même.
Non, d'abord ça vous êtes puni. Elles sont parfaitement assaisonnées. Elles sont bien grasses comme il faut. Il n'y a pas d'excès, mais il y a le gras qu'il faut pour avoir cette largeur en bouche. Une très belle mâche, une viande qui est encore assez présente. Donc il y a beaucoup de mâche. Elles sont vraiment très très bonnes. Elles sont puissantes, mais il y a une certaine finesse malgré tout. Là, c'est mon quatrième morceau de pain.
Oui, on l'a bien vu, ouais. Le pot est à moitié vide, on l'a bien remarqué. Alors, il commence par tous vos commentaires, la couleur, la texture de la viande, il commence à se dessiner. Une définition des rillettes de Tours, finalement, Loïc Bienassi.
Oui, alors, de toute façon, il y a un cahier des charges, parce que, comme vous l'avez dit, il y a l'IGP qui fête ses 10 ans, d'ailleurs, si je ne dis pas
bêtises. Oui, 2013.
Oui, c'est ça. Et souvent, en fait, on n'associe pas Tour Rillette, hein, pour des raisons évidentes, on associe la Sarthe, le Mans, voilà. Alors, il est vrai, comme je l'ai dit, que c'est un produit du Grand Ouest. J'ai parlé de l'Anjou, on peut parler de la Touraine, on peut évidemment parler de la Sarthe, du Maine, en fait, historiquement, voilà. La question, finalement, c'est que c'est sans doute à Tours, c'est à Tours, que c'est devenu la rillette s'installer comme spécialité locale en premier. On en faisait dans la Sarthe, je le répète, mais par contre à Tours, on a quand même une mention, alors qui est souvent oubliée, une pièce de 1724, écrite par un certain Jean-Baptiste Joseph Willard de Grécourt, 1724, qui s'appelle Rillon Rillette, où il évoque une rillonnière qui tient boutique. Et ça, c'est important, où elle donne à manger rillons et rillettes. Pourquoi je dis que c'est important? C'est parce que, justement, on passe de la préparation domestique, dans les limbes de l'histoire, jusqu'à, là, une commercialisation. Et
ça veut dire que la fabrication des rillettes devient aussi un métier.
Exactement. Et là, on a donc cette rillonnière. Alors, c'est vraiment une occurrence unique. Par contre, ce qui est sûr, là, on est au XVIIIe siècle, ce qui est sûr, c'est qu'au XIXe siècle, là, Tours, on le trouve dans les guides, on le trouve dans tout un tas de texte, on le trouve dès qu'il y a un panorama de l'économie française, des spécialités locales. Tours est la capitale de la rillette au 19e siècle.
Mais alors,
sans conteste.
On a quand même le sentiment que Tours s'est un peu fait voler la vedette par Le Mans. Si on fait un sondage auprès de ceux qui nous écoutent, il est fort à parier qu'il y aura 9 personnes sur 10 qui répondront Le Mans quand on parle de rillette plutôt que de Tours. Alors, d'où vient cette guéguerre de clocher? Pourquoi Le Mans a pris le dessus? Et surtout, Loïc Bienassi, la différence entre ces deux écoles de rillette?
Alors, pourquoi... alors, en effet, vraiment, encore une fois, 19e siècle, Tours. Pas de discussion. La réputation a continué, d'ailleurs, au 20e siècle. Il y a, par exemple, anecdote amusante, dans le Tour de Gaulle d'Astérix, dans les premières versions, donc on est dans les années 60, dans les premières versions, Goscinny avait prévu de faire que Astérix s'arrête à Tours pour manger des rillettes. Donc, il y a, vous voyez, là, on est un peu, c'est la queue de la comète, la réputation se maintient encore un peu. Non, ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, là, depuis plusieurs décennies, les rillettes du Mans ont pris le dessus, parce qu'ils ont su mieux communiquer, mieux se faire connaître, et peut-être mieux en faire une industrie. En fait, on est en 1900, il y a Albert L'Huissier, une sorte de pionnier de la rillette, il ouvre sa charcuterie en 1900 à Conneret. Conneret, on est à une trentaine de kilomètres à l'est du Mans. Il ouvre un abattoir et il développe des expéditions vers Paris, donc voilà, une petite industrie se développe, et surtout... il y a le passage de la ligne entre Paris et la Bretagne. Or, il y a un arrêt à Conneret, un arrêt qui dure. Je crois qu'il fallait réapprovisionner en eau, enfin, peu importe. Et un arrêt qui dure. Et les Parisiens découvrent les rillettes, alors pas du Mans, de Conneret, mais de la Sarthe, on va dire, à cette occasion.
Par le chemin de fer.
Par le chemin de fer. Ça, ça a sans doute été... c'est quand même Paris qui fait les réputations culinaires. Et là, ça a été vraiment un point de bascule décisif. Et... il y a eu toute une dynamique ensuite avec, je ne sais pas si on a le droit de citer des marques, mais
allez-y.
Bordeaux Chenel qui l'a...
Non, nous n'avons pas les mêmes valeurs, lui.
Ah, pardon, mais en tout cas, qui ne vient pas de Bordeaux, hein, mais de la Sarthe, là, dans les années 20.
Attendez, quand on a préparé l'émission, quand même, Laurent Thomas, notre réalisatrice, non, elle dit non, ne raconte pas ça. J'ai toujours pensé, depuis toute petite, que Bordeaux Chenel, c'était des rillettes de Bordeaux.
voilà, on censurera ce passage. 1922, ouverture, du coup, de la maison Bordeaux Chenel. Et voilà, se crée cette industrie et donc cette réputation. Incontestablement, on a là les rillettes du Mans qui supplantent celles de Tours.
Certains spécialistes avancent même que les rillettes du Mans ont entre guillemets gagné le match contre Tours par le fait qu'elles étaient plus tartinables, plus crémeuses et plus adhérentes par conséquent dans un sandwich.
Je suis dubitatif parce qu'on tartine parfaitement des rillettes de Tours.
Ouais, c'est ça, ça y est, il joue les chauvins.
Il y a un petit chauvinisme.
On est d'accord toutefois que même si c'est un peu compliqué de définir les rillettes du Mans dans la mesure où elles ne sont entourées par aucun cahier des charges, mais on va dire que les rillettes de Tours semblent plus viandeuses et plus sèches, comme le disait Jérôme Gagnès, par rapport à celles du Mans qui sont peut-être, qui ont une impression plus de d'onctuosité et de gras.
Alors oui, parce que parfois on entend dire, oui, les rillettes de Tours sont moins grasses, ce qui n'est pas vrai. Hein. Seulement c'est, parce que il y a vraiment le même taux de gras, j'allais dire, dans les deux rillettes. Non, par contre, il y a des modes de cuisson différents. Celles de Tours sont un peu plus sèches, parce que celles du Mans sont cuites à l'étouffée. Celles de Tours, justement, c'est en cuve ouverte.
Ça, c'est une différence importante. Hein.
Une différence importante.
Cuisson à découvert des rillettes à Tours. Vous aussi, c'est à découvert, hein, Marie.
Oui, oui.
On va le voir dans un instant, justement.
Absolument. Donc voilà, il y a ça, je pense, c'est un des marqueurs. On parlait de la couleur brune tout à l'heure. Là aussi, il y a ce rissolage initial, l'ajout d'arôme pâtrelle aussi, qui donne cette couleur.
L'ajout d'arôme.
L'arôme pâtrelle, c'est un colorant en fait à base d'oignon, mais c'est quelque chose de tout à fait naturel et c'est bien installé dans les usages, quoi. Et l'ajout de vin aussi.
Hein, et l'ajout de vin.
Ouais.
Voilà.
Là, on a les grands marqueurs, je pense, de l'identité des rillettes de Tours.
On s'avance tout doucement vers la chronique vin de Jérôme Gagnès. Mais avant, il y aura évidemment, ça va être le moment crucial de l'émission, le climax dont on va déguster la recette de Marie Caffarel de rillettes de Touraine, puisque vous n'avez pas le droit de l'appeler rillettes de Tours. Enfin,
je n'ai pas le droit de l'appeler rillettes de Tours, mais...
puisqu'il y a une IGP, mais vous êtes à Marseille.
Mais je suis à Marseille et je fais Mariette de Touraine. Voilà.
Et ben, vous allez nous expliquer, vous allez nous raconter comment on l'a fait à la maison et on va voir que ce n'est pas si compliqué.
Je te regarde pousser, sonne un peu de travers, on dirait tu n'as pas l'air. Faudrait my girl, maintenant je te vois, my girl, je te connais déjà, my girl, je danserai avec toi, transformer en fleur, my girl. Maintenant je te vois, my girl. Je te connais déjà, my girl. Je danserai avec toi, my girl. My girl, my girl. Maintenant je te vois, my girl. Je te connais déjà.
Laura Cahen et Pyjama avec le titre My Girl, on se rue sur les rillettes.
On va déguster. Sur France Inter.
Les réactions se bousculent sur notre mail et sur nos réseaux sociaux. L'ami Pierrick Jégu, qu'on connaît, hein, journaliste gastronomique installé à Rennes, nous signale, je ne les connaissais pas, les fabuleuses rillettes. Il me dit attention, rillettes d'enfer à la maison Cottereau. À Amboise, ça vous dit quelque chose ou pas? On ira y faire un tour, Loïc.
Oui, avec plaisir.
À Amboise, ouais. Cottereau, maison Cottereau. On vous indiquera l'adresse sur le site internet de l'émission. Jérôme, d'autres actions?
Ah oui, on a Monsieur Levoras. Mon boucher Olivier.
Monsieur Levoras, vous êtes sérieux?
C'est peut-être un pseudo, salue Monsieur Levoras. Mon boucher Olivier Aubert à Sablé-sur-Sarthe prépare de délicieuses quiches aux rillettes.
Extraordinaire.
Magnifique. Quatre cuillères de lait, une bonne cuillère à soupe de crème fraîche, un petit pot de rillettes, sel, poivre. On peut rajouter du fromage râpé. Je pense que là, ça me paraît pas indispensable. Ou des herbes. Voilà. Et notez qu'il a été médaillé en 2019 pour ses rillettes. Donc ça, je pense que c'est un truc qui tient encore. C'est à prendre quand il fait froid. On a une personne qui est forcément notre amie puisque son surnom parmi ses proches, c'est Miss Rillette.
Ah, pas mal.
Donc là, on peut pas faire autrement que donc de citer Marina Dufeal. Marina Dufeal, nous vous embrassons bien fort. Vous venez d'avoir 49 ans, vous nous dites, et vous vous souvenez de ce bocal de grillons que vous dégustiez chez votre grand-mère dans le Sud-Ouest. Eh bien, écoutez, on vous souhaite d'en redéguster éventuellement, de retrouver d'aussi bons grillons si c'est possible. Il y a un souvenir d'enfance. Mon grand-père tournait les rillettes toute la journée le jour du tuage du cochon. Tout ça à la ferme familiale dans le Segréen. Cuisson au feu de bois dans un gros chaudron en fonte. On se pressait de rentrer de l'école pour terminer la cuisson avec lui, les tourner un peu et la mise en bocaux, puis manger les gros rillots. Un délice. C'est Serge qui nous écrit. Eh bien, Serge Gaudin, on vous salue bien et on salive à l'idée, enfin, à entendre vos souvenirs d'enfance.
Et l'ami Fabrice Rivaud nous signale une réaction d'un auditeur qui a une stratégie avec les radis.
Oui, tout à fait. Un auditeur qui remplace le beurre sur les radis par des rillettes. Eh bien, on ne peut que saluer la clairvoyance de cet homme qui devrait être décoré parce que c'est une idée absolument géniale.
Oui, qu'on va s'empresser d'appliquer à la maison, on est bien d'accord.
Allez. Les rillettes, quand ça sort en fait de cocotte, les manger chaudes comme ça, mais c'est absolument délicieux. Je me régale.
On va précisément pouvoir le faire puisque vous apprenez désormais cette très belle recette qui figure dans votre ouvrage extrêmement pédagogique. C'est toute la qualité de cette collection. C'est de décomplexer le lecteur par rapport à des techniques souvent considérées comme professionnelles. À la page 150, rillettes de Touraine, on y va. C'est parti pour un kilo, une terrine d'un kilo avec de l'échine de porc, de la poitrine et du sein doux. Quelles sont les proportions?
Alors du coup, on a 700 grammes d'échine, 300 grammes de poitrine et ensuite on rajoute 600 grammes de sein doux. Moi j'aime bien rajouter de la poitrine parce que quand je l'ai goûté à Tours justement, il y avait un effiloché mais qui contenait quand même des petits morceaux de gras et on avait l'impression que certains charcutiers peut-être utilisaient un peu des parties moins nobles, que c'était peut-être en recyclage quelque part. Et ça, c'est vraiment très intéressant en charcuterie parce que finalement, il ne faut pas qu'il y ait de pertes, il faut utiliser toute la bête. Et donc, je m'étais régalée avec cette rillette-là, et c'est ce que j'avais essayé de retrouver. À la base, j'avais trouvé un petit livre, du coup, en Touraine, avec une recette à l'Armagnac. J'ai un petit peu changé depuis. Dans le livre, effectivement, il y a de l'Armagnac, mais moi, maintenant, j'utilise du blanc, et du blanc de ma région, donc du Picpoul de Pinay, parce que moi, je viens de Montpellier, et mon papa de Sète, donc voilà, c'est le terroir.
Ah bah, délicieux.
Et donc, voilà, j'ai décidé d'utiliser du vin blanc. Donc, je fais bien revenir tous mes morceaux de viande dans le Saint-Doux.
Alors, d'abord, vous les avez découpés
On les découpe.
Quel calibre
Un petit peu comme des rayons, finalement, en gros cubes. En gros cubes, pour les faire revenir et bien, en fait, bien les dorer.
Mais vous les faites revenir dans déjà un peu de Saint-Doux?
Un peu de Saint-Doux, mais pas tout.
50 grammes à peu près.
Voilà, 50 grammes, c'est parfait. Une fois qu'ils sont bien dorés, on finit de rajouter le Saint-Doux et à ce moment-là, on met sa garniture. Donc, une fois qu'on a fait revenir dans le Saint-Doux, donc du coup, je déglace au vin blanc et ensuite, je rajoute le restant du Saint-Doux. Donc, on recouvre, on fait fondre son Saint-Doux et la garniture. Donc, gousse d'ail, bouquet garni. Moi, je mets un oignon également, généralement piqué de clous de girofle.
Un peu d'épices.
Voilà, d'accord. Un petit peu d'épices.
Est-ce que l'on sale à ce stade?
Non, on ne sale pas à ce stade-là. Moi, je sale enfin uniquement. Sel et poivre, tout simple. Pas de sel nitrité, évidemment.
Et oui, puisque tout l'intérêt du gras dans la rillette, c'est quand même de servir d'agent de conservation.
Exactement. Et puis, les sels nitrités, vraiment, c'est pas utile. Et puis, dans ce genre de préparation, en plus, on recouvre la terrine de Saint-Doux. Donc,
c'est déjà une belle protection.
C'est une très belle protection et elle peut se conserver comme ça assez longtemps, jusqu'à 2 semaines. Et j'avais lu qu'à l'époque, ils gardaient ça dans des amphores, dans les caves, avec des grosses couches de Saint-Doux. Et ils pouvaient garder ça des mois. Donc vraiment, c'est quelque chose qui a une très grande durée de vie. Donc une fois qu'on a rajouté le Saint-Doux, la garniture, on laisse à découvert et on fait cuire.
Si ça attache un peu, je crois que on peut ajouter éventuellement un tout petit peu d'eau.
Un tout petit peu d'eau, non, moi je ne le fais pas, mais il y a déjà un petit peu de vin blanc, donc finalement on a déjà un liquide.
Et là on va laisser quand même mijoter.
Et là on laisse mijoter, moi je laisse mijoter 3 à 4 heures, ça dépend de la taille des morceaux.
À découvert.
À découvert, tout à fait.
Ça c'est important.
C'est très important.
Sachant qu'excusez-moi de vous couper Marie Caffarel, vous avez choisi comme... récipient de cuisson, évidemment plutôt une cocotte à fond épais ou une cocotte en fonte.
En fonte, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce que ça n'attache pas, ça cuit doucement, ça conserve la chaleur. Donc voilà, une petite cocotte en fonte. Et puis en fin de cuisson, du coup, on va venir retirer notre garniture et on va venir augmenter le feu, légèrement détacher la viande à la fourchette, commencer à les filocher légèrement. On monte le feu et là, on vient faire rissoler les morceaux, comme disait notre charcutier tout à l'heure.
Pour faire brunir un peu cette confiture.
Pour faire brunir la viande. Voilà. Et à l'époque, ça s'appelait la brune confiture de cochon.
Mais oui, d'ailleurs, c'est une référence à un auteur célèbre du 19e siècle qui évoque.
Rabelais.
Oui, c'est vrai.
Non, pas Rabelais.
Non, en fait, c'est Balzac. C'est vrai que j'aurais pu le mentionner parce que souvent, on estime d'ailleurs, à tort, je vous renvoie à ce que je viens de dire, que c'est la première occurrence. Mais en fait, parce qu'en effet, il y a un passage célèbre de Balzac, donc 1835, le Lys dans la vallée, où on voit son héros, Félix de Vandenesse, qui enfance donc Tourangelle et qui parle de cette brune confiture de cochon. Et c'est intéressant parce que justement, on voit que la texture est déjà, parce que je disais tout à l'heure qu'on n'avait pas de recette. Mais quand on lit cela, on suppose bien que ce sont sans doute les rillettes qu'on connaît actuellement.
Et que ces morceaux de cochon ont effectivement été bien rissolés pour être colorés, presque caramélisés. C'est sans doute ce qui apporte du goût à ces célèbres rillettes.
Et c'est cité dans Gargantua aussi.
Tout à fait. Alors, dans Gargantua, dans le tiers-livre, il parle de riz. Cette pièce longue dont je parlais, c'est qu'on est toujours dans cette famille de produits. C'est sans doute pas les rillettes telles qu'on l'entend aujourd'hui.
Non, mais il parlait de la confiture, justement.
Alors, je suis pas sûr dans le cas.
D'accord.
Alors, en tout cas, on a fait mijoter 2-3 heures à feu doux.
À feu doux.
Et là, il se passe quoi?
2-3-4 heures, en fait.
Oui.
Et là, du coup, une fois qu'on a augmenté le feu et qu'on a fait brunir la viande, on va venir récupérer la viande, la mêler au sel et au poivre et rajouter le Saint-Doux à la main et le mettre en terrine. sans trop le tasser, bien évidemment. Et on garde une partie du sein doux, mais pas tout le sein doux. Hein. En fait, quand on mélange à la main les morceaux de viande, on vient intégrer le gras qui est nécessaire pour avoir une mêlée sans qu'il y ait de gras vraiment qui ressurgisse. Et ensuite, on garde ce gras-là pour venir recouvrir la terrine. Et on la met au frais pour la nuit. Le mieux, c'est idéalement de la garder 2 jours pour que les goûts se développent un petit peu quand même.
Elle est délicieuse, hein ?
Ah oui, elle est formidable.
Qu'est-ce qu'elle est bonne. Oui. Jérôme Gagnès a la bouche pleine. Et ben on en profite pour lui donner la parole.
On va déguster sur France Inter.
Pour accompagner les fameuses rillettes de Touraine, de Marie Caffarel, qu'elle réalise à Marseille avec un vin local. Ben, il y a moyen de faire affaire.
Il y a moyen de moyenner parce que, comme je le disais tout à l'heure, on va monter au Rideau. On se trouve dans le vignoble d'Azay-le-Rideau, à quelques encablures de Tours, au sud-ouest de Tours, vraiment à l'ouest, très légèrement au sud. On est encore un peu avant Chinon. Et c'est un petit vignoble, ça fait 50 hectares. C'est Azay-le-Rideau, c'est un tout petit écrin de vigne posé de part et d'autre de la vallée de l'Indre. Ce sont 4 ou 5 communes, 8 producteurs, c'est tout petit. Et il y a parmi ces 8 producteurs le domaine des Hauts-Baigneux. Le domaine des Hauts-Baigneux, c'est un domaine qui a été repris par un vigneron dont j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le travail, qui est un vigneron assez extraordinaire, très entreprenant, passionnant, passionné, qui s'appelle Nicolas Grosbois, le domaine Grosbois à Panzou, à Chinon, et avec son frère Sylvain, et puis avec Philippe Meignier, ils ont repris tous les deux le domaine des Hauts-Baigneux en Touraine, Azay-le-Rideau. Et ils y produisent, eh bien, des vins d'Azay-le-Rideau. Donc, Azay-le-Rideau, ce sont 2 couleurs, le blanc avec du chenin, sur des socles calcaires avec des argiles à silex dessus, et puis aussi un rosé, le rosé d'Azay-le-Rideau, qui est exclusivement issu du gros lot. Le gros lot, c'est un cépage local qui donne des vins qui sont parfois très framboisés, ça donne des très jolis vins, souvent acidulés. Ce domaine s'est bien développé, mais comme nous le savons tous, il y a eu des gels, il y a eu des grêles, et donc il a bien fallu quand même produire du vin quand on avait très peu de raisins. Et alors, Nicolas et Philippe ont eu une idée assez brillante, c'est qu'ils se sont tournés vers le négoce, alors d'autres l'ont fait bien sûr, mais eux l'ont fait avec beaucoup de méticulosité, et ils ont sorti notamment cette cuvée qui s'appelle le Spontané.
Rappelez-nous,
2021.
Redonnez-nous une petite définition du négoce.
Le négoce, oui, c'est le fait d'aller acheter des raisins ou du moût, c'est-à-dire du jus de raisin, ou du vin à d'autres viticulteurs, à d'autres vignerons. Et bien là, ils vont acheter les raisins, mais ils vont même les vendanger eux-mêmes. Et ils vont aux 4 coins de la France pour se faire, parce qu'en 2021, leur chenin du Clos des Brancs, qui est le très beau vin blanc du domaine Hauts-Baigneux, c'est là, vous avez le 2020, le 2020 qui est à la vente aujourd'hui, qui est une splendeur, c'est un très beau vin, c'est un vrai vin de garde, 17 €, c'est quand même un peu au-dessus des prix que je donne habituellement, mais c'est un très beau rapport qualité-prix, c'est un très beau vin. Ben là, il n'y avait pas suffisamment de chenin pour faire le Clos des Brancs. Alors, ben, ils ont fait quoi? Ben, ils ont pris le chenin qu'ils avaient, et puis ils l'ont complété avec un grenache de la vallée du Rhône. Ils sont allés en vallée du Rhône, ramasser les grenaches à la main, ils les ont rapportés en Touraine. Ils sont allés à Gaillac, ramasser du Mozac. Ils sont allés en Entre-deux-Mers, ramasser du Sémillon. Et avec tout ça, ils ont fait un vin effervescent qui s'appelle le Spontané.
Qu'on a dans nos verres.
Qu'on vous avez dans vos verres. Donc, c'est un assemblage. 4 quarts, Grenache de la vallée du Rhône, Mozac de Gaillac, Sémillon du Bordelais et Chenin d'Azay-le-Rideau. Et ça donne ce vin avec la générosité, la chaleur du Grenache, l'acidité, la fraîcheur du Chenin, l'exotisme du Sémillon, l'acidulé du Mozac, avec une bulle
fine.
Qui est fine, qui nous nettoie le palais avec ses rillettes, parce que les rillettes de Marie sont absolument délicieuses, elles sont grasses comme il faut. Et bien ce vin qui est à 9,99 €, donc c'est, alors je n'ai pas l'habitude de faire la pub pour les supermarchés, mais là
ah
pour
oui,
une
ça
fois
c'est pas
que,
dans vos habitudes, on peut le dire.
Mais là pour une fois que chez un distributeur en l'espèce Monoprix, on a un vin de cette qualité à 9,99 €, là faut vraiment être fou pour pas y aller, il faut vraiment goûter ce vin, c'est un apéritif absolument délicieux, ça ira très bien sur les entrées, c'est rafraîchissant. Et donc, on a un petit peu de ce Hazel Rideau dans ce spontané 2021. Je signale encore une fois le Clos des Brancs, parce que c'est un très beau blanc, un pur chenin d'Hazel Rideau, avec de l'ampleur, de la rectitude, de la droiture. Et c'est vraiment un vin qui fait tout à fait honneur, à la fois à la Touraine et à Hazel Rideau, parce qu'il y a de l'ambition dans ce vin. Philippe Meynier et Nicolas Grosbois, ils ont l'ambition de faire des grands vins. Et ce Clos des Brancs est réellement un très beau vin de Touraine. Vraiment, on connaît mon amour immodéré pour les vins ligériens. Et en Touraine, voilà un vin qui fait vraiment honneur à son appellation.
Vous nous rappelez l'énigme que vous nous lanciez en début d'émission ?
Oui, on va monter au rideau.
Ah, Hazel Rideau.
Hazel Rideau, puisqu'on est, voilà.
Elle est fine, celle-là.
C'est une finesse rare et je vous remercie de le constater, de le faire remarquer.
Et précisons d'ailleurs, en règle générale, que la bulle est toujours à associer avec des plats gras, particulier la rillette.
C'est un excellent accord avec des plats avec du gras, parce que la bulle, elle a pour fonction aussi un petit peu de lessiver le palais. Et c'est toujours un accord auquel on doit penser, notamment avec des fromages, par exemple. Quand vous goûtez un champagne avec un Pierre Robert ou un Bria Savarin, quel accord, c'est absolument magnifique. Je termine juste cette chronique très rapidement pour signaler que en ce moment même à Chartres, sous la très jolie verrière Eiffel, il y a le marché de la Paulée des vins de Loire. C'est un marché avec plein de vignerons qui sont tous meilleurs les uns que les autres. C'est un très beau marché. On peut goûter du vin, on peut acheter du vin, on peut manger des rillettes, des rillons, tout ce qu'on veut. C'est absolument formidable. Allez à Chartres, c'est aujourd'hui jusqu'à 18h.
Merci Jérôme Gagnès. Il y a une rillette d'une drôle de couleur qui s'est invitée dans nos assiettes. Elle est aussi signée Marie Caffarel. Alors, elle ne figure pas dans le grand manuel du charcutier, les spécialités incontournables de l'artisan aux éditions Marabout. Et on va dire que c'est une rillette un peu voyageuse, voire jet-laguée.
Voilà, c'est une rillette en fait qui vient d'une mémoire australienne, puisque j'ai habité 10 ans en Australie et que là-bas il y avait une cuisine thaï assez importante.
On a en commun la passion de la cuisine thaï, parce que vous avez quand même passé pas mal de temps. Il faut quand même préciser quand même que vous avez fait une licence en sciences sociales, obtenue en Australie, que vous êtes allé travailler là-bas, que vous êtes reconverti, vous êtes arrivé à la Maison Payani en 2019. Brillant parcours. Et c'est vrai que c'est en Australie que vous avez acquis des notions, des savoir-faire en matière de cuisine thaï.
Ouais, donc du coup, j'ai travaillé dans un restaurant thaï et j'ai appris en cuisine quelques recettes de pâtes de curry, notamment de soupe, etc. Et il y avait vraiment une pâte de curry que j'adore, c'est le laksa. Donc le laksa, c'est une pâte de curry qui est assez complexe à base de crevettes. De crevettes séchées, on a la pâte de crevettes aussi qu'on va faire revenir, des graines de coriandre, la coriandre fraîche, du piment. Enfin, il y a beaucoup de choses dans
Vous
cette pâte
de
curry.
Vous mettez pas de lait de coco quand même ?
J'ai mis un peu de coco.
Oh là là, c'est délicieux. Là, on est vraiment sur un mariage entre le bon terroir franchouillard et cette super cuisine thaï avec toute son aromatique, galanga, citronnelle.
Exactement. Splendide. Et donc, c'est du poulet que je fais du coup mariner dans la noix de coco avec la pâte laksa, que ensuite j'ai fait confire dans du gras de canard, auquel j'ai rajouté encore un petit peu de pâte laksa en fin de cuisson, avec bien sûr un peu de kombawa et un peu de basilic thaï, pour venir donner cette belle
longueur. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ?
Ah oui, c'est extrêmement complexe en fait comme saveur, avec une sorte des notes un peu acides où il y a une tension avec ce gras, c'est délicieux. Mais d'ailleurs, l'assaisonnement était déjà, je l'ai pas dit, mais exceptionnel, je trouvais dans les rillettes précédentes.
Donc,
sacrée performance. Merci beaucoup, Marie Caffarel.
C'est un authentique mariage d'amour. C'est très, 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 très réussi.
Et en plus, vous adorez les saveurs thaï.
J'aime beaucoup la cuisine thaï aussi. C'est vraiment réussi.
Voilà, on s'est régalé grâce à Marie Caffarel, dont je rappelle le titre, Le grand manuel du charcutier aux éditions Marabout. C'est vraiment, pour ceux qui veulent s'engager dans la charcuterie maison, un très, très bon bouquin que je vous recommande. Un grand merci. Et puis à la Maison Payani pour tous vos produits. On viendra vous voir à Marseille, ça c'est sûr, chère Marie Caffarel. La semaine prochaine, les épinards et autres feuilles à cuire avec Xavier Mathias, Justine Knapp, Elvira Masson. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.